Je ne sais pas pour vous, mais j'étais richement béni à travers notre adoration en chantant les messages dans les cantiques. Si nous avons bien réfléchi dessus, on a eu une bonne entrée pour notre repas spirituel. Et puis, nous sommes dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 1er, et j'avais remarqué dernièrement, c'est le troisième message actuellement, et je ne sais pas combien de temps on va rester dessus, mais tant que je me sens inspiré, ravi par ce que je prends, je vais voir ça comme direction du Seigneur de continuer dans le livre de Hébreux, au moins pendant un certain temps. Mais nous avons constaté que ces gens à qui la lettre était créée étaient des personnes deuxième et troisième génération, bien que première génération chrétienne restait, si vous comptez une trentaine d'années depuis par génération, qui est généralement ce qu'on pense, vous aviez des personnes nées au temps de la naissance de l'Église, des personnes qui ne connaissaient que ça, des personnes qui étaient déjà âgées, qui allaient bientôt mourir, et des personnes entre la naissance et la vieillesse, entre ces trentaines d'années un peu plus, à peu près 65 après Christ. Et donc, nous avons des chrétiens donc qui étaient très fervents, un peu comme le livre de Juges avait décrit les enfants d'Israël. Il arrivait une nouvelle génération qui ne connaissait pas le Dieu de leurs parents. Ils connaissaient deux dieux, mais ils ne connaissaient pas les miracles que Dieu avait faits. Et donc, ils n'avaient pas le même ferveur de leur première génération. Et la nécessité pour que nous qui sommes des enfants de deuxième génération, comme c'est mon cas, mes parents qui étaient chrétiennes et qui ne connaissaient pas le Seigneur à leur mariage, mais avant d'avoir des enfants, ils se sont convertis, c'était très très zélé. C'était tellement merveilleux et nouvelle ce qu'ils avaient découvert. Il a infecté un peu leurs enfants avec ça, pas simplement la doctrine absolument essentielle, la doctrine correcte, mais aussi une flamme qui sentait ce qu'ils croyaient. Et c'est pour cela que je crois qu'ils ont terminé, malgré tous leurs défauts, de passer cela à tous leurs enfants, et priant pour que ça passe à leurs petits-enfants. Et ça, c'est ce que nous devrions faire. Et le auteur de Hébreux est très consterné par le fait que l'état spirituel était précaire de ces gens. Leur foi était moins fixe, était en train de étouffer, semble-t-il. Ils font moins d'attention à leur propre salut. Le passé, le présent, le futur aspect de leur salut, leur justification, leur sanctification, leur glorification à venir, est donc accentué par le fait qu'il y avait beaucoup de stress de la vie. Il y a beaucoup de soucis, il y avait des pressions politiques, et j'avais mentionné la dernière fois que même politiquement parlant, le christianisme, depuis assez récemment, était illégal. Illegal to be a Christian at this time. Pas illégal d'être un juif, c'était toujours légal, bien que les juifs étaient presque autant détestés que des chrétiens, un peu moins, toujours légal. Et donc, les gens qui avaient même subi la persécution avant, avec grande ténacité, commençait à poser la question, est-ce que la différence vaut vraiment le coup? Est-ce que la différence dans la foi chrétienne, dans notre relation avec Jésus-Christ, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on devrait repenser les choses? Et le livre des Hébreux était écrit pour vraiment de viser ces gens. Chaque génération a cette espèce de personne. Il y a des gens sans doute ici qu'il y avait un moment dans votre vie chrétienne où vous étiez très zélé. Vous avez des yeux fixes sur ce que vous voyez. C'était merveilleuse le salut que vous avez découvert, mais avec du temps, avec tous les soucis du monde, avec les distractions, ça commence à baisser. Ça, c'est une tendance que le chrétien va lutter, contre quoi le chrétien va lutter pendant toute sa vie. Dans plein de domaines, ça devient de plus en plus facile. Dans d'autres domaines, pas plus facile. Il faut lutter. On ne peut jamais avancer contre-courant de notre nature pécheresse et de le monde autour de nous, ambiant, sans ramer constamment. On n'arrive jamais. J'attendais dans ma jeunesse chrétienne, quand j'étais jeune, oh, si seulement je pourrais arriver à la retraite spirituelle, où je pourrais monter sur la table, où je serais fixe et je peux me reposer le restant de ma vie spirituelle. Il y a des gens qui font ça. Rien n'est plus dangereux. Et l'épître des Hébreux va nous montrer ça plus tôt. Mais c'était le cas. Je pensais, je l'avais même mis comme titre de message. Est-ce que ça vaut le coup? Mais j'ai changé au dernier minute. J'ai décidé que c'était pas à propos, peut-être. Parce que l'auteur commence par dire, en parlant de ces gens qui commencent à vaciller dans leur foi, il veut établir le fait que Dieu existe. Le premier sujet d'une phrase grammaticale, c'est Dieu. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui a parlé. C'est un Dieu qui parlait progressivement dans l'Ancien Testament. Il parlait, et puis il parlait pas, et puis il parlait encore, et ça, plus ça, aha. Et puis il parlait pas, puis il parlait encore, et puis ça, plus ça, ensemble. Progressivement, Dieu s'est révélé à travers les prophètes, à plusieurs manières, à plusieurs reprises, à travers les prophètes, mais dans ce dernier temps, nous avons lu en verset 2. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes. Ça, c'est les deux premiers versets. Après autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu. Voilà, tout cela. Et puis le sujet de la phrase. Dieu, dans ces derniers temps, ayant parlé d'autrement dans le temps avant, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Ou dans le Fils. Et ce que j'ai voulu faire comprendre la dernière fois, ce n'est pas que nous pensons simplement les mots de Jésus qui sortaient. Certains de vous avez une Bible où les lettres de Jésus sont en rouge. Qui c'est qui a une Bible comme ça? Ce sont des bonnes Bibles. Je ne suis pas du tout contre, je suis pour. À condition que tu ne mets pas plus de valeur sur les rouges que sur les noirs. Toute écriture est inspirée par Dieu et a du profit spirituel. Et Jésus parlait. Mais ce que l'auteur veut que nous comprenions, ce n'était pas simplement la verbalisation de sa bouche qui était déjà très importante, mais sa présence. Pas simplement ce qu'il a dit, mais ce qu'il est. La parole de Dieu est ce que Jésus est. Jésus ne levait pas un seul doigt sans qu'il démontrait le Père. Il était une manifestation de Dieu dans toute sa divinité, la Trinité, dans tous ses aspects, incarné dans une seule personne qui était une personne très normale pour regarder, et si vous le dépassez sur la rue, vous ne verrez pas plus une différence qu'une autre personne que vous ne connaissiez pas. Et puis donc la dernière fois, nous avons constaté, au lieu de dire, d'accord, Dieu a parlé autrement, comme ça, et après, il parle comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas parlé sur ce qu'il a dit. Il a parlé sur cette qualité caractéristique en ajout sur l'autre merveilleux. Cette personne qui s'est manifestée dans la chair est une personne. La présence de Dieu se connaisse par le fait que il était celui qu'il a été établi comme héritier de toutes choses. Il était celui à travers lequel Dieu a créé le monde. Jésus-Christ a créé le monde. La Bible nous le dit. Il était la parole était avec lui. Le monde a été créé par la parole. Jésus-Christ est le reflet de sa gloire et nous avons vu tout cela la semaine dernière merveilleusement, le rayonnement, le resplendissement, le splendeur, l'effusion et encore plus de mots parce que le mot manque. Il n'y a pas de mots qui peuvent vraiment décrire. Il soutient toutes choses par sa parole. Il est le physicien suprême. Il a fait purification du péché. Lui seul a effacé notre culpabilité. Il est assis à la droite de la majesté. Il est le roi des rois. Et le septième, avec quoi nous avons terminé, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un homme plus excellent que le leur. On a terminé par ça, sans vraiment parler de cela. J'ai l'impression que ça, c'est pas aussi clair. Et puis, pour nous, venant dans notre contexte, on aurait dit héritier, waouh, créateur, waouh. Réflexion de la gloire, encore en troisième bras. Souteneur de toutes choses. Ce mot n'existe pas, mais il soutient toutes choses moléculairement sur tout ce qui existe. Sans quoi, si Dieu arrête, si Christ arrête, parce que ça part de Christ, de réfléchir pour une seconde sur sa création, il tient tout les planètes exactement dans leur place, quel était le satellite qui a dépassé la semaine dernière après 12 ans et demi, je crois, de voyage, a dépassé Pluto, le dernier petite planète dans notre système solaire. Dieu, et puis ça commence la réalité de l'univers après. C'est pas la fin, c'est le début d'une galaxie qui est suivie par des millions de galaxies. Ça me dépasse. C'est lui. Si vous détournez votre dos sur lui, vous faites une descente très importante et il a fait purification du péché. Lui seul a effacé notre culpabilité, et puis il était saisi à la majesté de Dieu. Oui, ça se comprend, si tout ça c'est vrai, ça se comprend. Et puis, il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, qu'est-ce que cela avait à faire avec cette liste apparemment très importante, parce que le reste du chapitre va traiter ça. Et il n'y a pas que ça. Une bonne partie de la semaine, de la chapitre après, et plusieurs fois, le auteur de cette épître revient. Pour moi, il n'y a pas de problème. D'accord, je suis tout à fait d'accord que Christ est devenu autant supérieur aux anges. Je n'ai jamais douté ça. Vous peut-être non plus. dans notre contexte. Mais essayez de vous mettre dans le contexte des Juifs. Attention, c'était des Juifs chrétiens. Écrit aux Hébreux. C'était pas écrit aux Grecs, c'était écrit à une église, probablement en Italie, suivant les derniers versets de Hébreux. Il n'est pas dit où il est écrit, mais ils disent l'avant-dernier verset à peu près que les Italiens là-bas, ils vous saluent. Et donc, on ne sait pas qui l'a écrit, d'où il l'a écrit et où était ce livre aussi dirigé. Mais de toute façon, ils avaient des idées sur des anges qui devaient être vraiment, vraiment corrigés difficilement. Il était cru par chaque juif que la loi de Moïse avait été donnée par un ange. Moïse était sur la montagne de Sinaï. Un ange de l'Éternel venait. Un ange sublime, un ange divin, un ange qui vient directement du ciel. Un ange qui systématiquement, non pas systématiquement, mais à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, apparaissait comme cela. Les gens se prosternaient, comme devant Dieu, en plein tremblement, parce que, ayant vu le visage de Dieu, comment pourrait-il que quelqu'un vive? Les Juifs étaient joyeux quand ils se comparaient avec toutes les religions du monde. Il n'y avait aucune religion qui a été donnée comme leur religion. Aucune religion qui est aussi pure que la leur. Aucune religion qui, où Dieu a pris le temps de se confier à un ange pour qu'il descende pour donner à Moïse sur une montagne avec des effets qui faisaient trembler. Ils étaient très fiers de leur loi. Et maintenant, ils réfléchissent, nous avons mis tout cela à côté pour ce personnage de Nazareth. Oui, oui, d'accord, je suis un juif messianique maintenant. Je comprends, j'ai compris, j'étais convaincu par des écritures, mais est-ce que c'est possible, peut-être, on exagérait. Ou il n'avait pas raison du tout. Et donc, il écrit. Et il va parler verset après verset après verset, et une douzaine de fois, il y a 13 chapitres, j'ai trouvé 12 mentions du mot ange, donc un tiers dans notre passage ici, mais à travers Hébreux, sur des anges. Nous qui n'avons pas un problème sur des anges, peut-être nous avons un problème dans l'autre sens. Mais les Juifs devaient vraiment saisir quelque chose. Et ce que Paul, je ne veux pas dire ça parce que je ne sais pas si c'est Paul ou quoi que ce soit. Certains pensent que c'est Paul. Je ne sais pas du tout. Mais il veut leur montrer que des anges ne sont que des anges dans le 4e verset. Je crois que ce que nous voulons faire pendant plusieurs minutes, c'est juste aller verset par verset et de voir les argumentations très puissantes par rapport aux Juifs. Alors, vous pouvez dire, ça ne me concerne pas, ça vous concerne beaucoup. Premièrement, parce qu'elle a tendance de vous laisser tomber aussi les choses, de vous ignorer les choses, de juste négliger les choses, la paresse chrétienne, qui peut très facile arriver, nous arrive aussi. Donc ça, c'est une bonne raison. Et aussi, pour reconnaître, ce n'est pas une question, une étude sur des anges, c'est une étude sur Jésus-Christ. Ce livre, plus que tout autre livre, je vous ai mentionné ce fait que j'ai eu dans un commentaire, à part le livre de l'Évangile selon Jean, le livre de Hébreu exalte la personne de Jésus-Christ plus que tout autre livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament surtout. Les anges ne sont que des anges. Regardez versets 4 et 5. Devenant d'autant supérieurs aux anges. Pas qu'ils n'étaient pas supérieurs avant, mais était intitulé parce qu'il avait accompli les choses nécessaires pour que officiellement et légalement il prenne sa place comme un prince qui grandit, qui est déjà, théoriquement, il est déjà le roi. Il faut l'installation pour qu'il soit officiellement accepté. Vous pouvez penser un peu dans ce sens, pas que Jésus était inférieur aux anges, mais en fin de compte, si vous regardez en chapitre 2, verset 9, je n'ai pas mis ici, je ne crois pas. Mais juste tourner une page, et verset 9, nous lisons ceci. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. » Jésus est celui, pour un petit temps, s'était abaissé en dessous des anges. Jésus, virgule, nous le voyons couronné maintenant de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour nous. Donc, devenu d'autant supérieur aux anges, tandis qu'à un moment donné, il était abaissé. Je crois que ça, c'était un problème pour des Juifs. Moïse, clairement, était grand, mais pas comme les anges. Et Jésus, clairement, était grand aussi, mais il y avait des anges qui venaient quand même pour l'adorer, pour l'aider. J'arrive à l'adoration plus tard, mais il vient pour l'aider, pour le soutenir parce qu'il était affaibli à Gethsémané, par exemple. Et donc, Jésus, plus que les anges, débattable. C'est peut-être le libéralisme de l'époque. Avant, Jésus suprême. Et maintenant, c'est à débattre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Car, dit l'apôtre, et il va citer sept passages de l'Ancien Testament, il va citer sept différents passages pour argumenter le fait que Jésus est supérieur aux anges. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Quel était l'ange à qui Dieu dit? Et maintenant il va citer Psaume chapitre 2 verset 7. Auquel des anges est-ce qu'il avait jamais dit? Et c'est une question rhétorique, n'est-ce pas? Bien sûr, aucun. Toi, tu es mon fils. Toi, je t'ai engendré. Aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. C'est Dieu, le Père, qui parle de Dieu, le Fils, mais jamais un ange comme ça. Un ange, en fin de compte, n'est qu'un ange. Un ange est un ange, mais Christ... Oh, je suis allé en avance, excusez-moi. Un ange est un ange, mais Christ est le Fils de Dieu. Un ange est un ange. Ça, angelus, c'est le latin, ça veut dire messager. Un ange est quelque chose de formidable, un ange est quelque chose de merveilleux. J'ai entendu un prédicateur en Angleterre qui disait que quand il était petit, son père était dans l'armée, et il avait une position plus ou moins élevée, pas général de l'armée, et de temps en temps, il recevrait quelques documents dans le courrier qui venait du palais, mais il y avait un moment dans sa vie où il se rappelait très bien, il venait un personnage directement du trône du roi, qui n'était pas Élisabeth, c'était avant Élisabeth, et puis il venait à sa maison, et les voisins regardaient, et tout le monde était émerveillé par ce traitement qu'il avait reçu avec une lettre qui disait « Mon cher Stanley », c'était le nom de son père, et puis signé par le roi lui-même. Et ils étaient vraiment stupéfiés. Mais, en fin de compte, ce n'était qu'un messager. Ce n'était qu'un messager. Supposez que c'était le roi lui-même, ou son fils, ou sa fille, qui prend visite directement à son adresse dans telle rue, qui sorte de limousine et qui honore l'habitant avec sa présence. Et il veut que nous comprenions cela. Un ange fait des choses merveilleuses. Un ange donne des messages merveilleux. Mais un ange, en fin de compte, n'est qu'un ange. Un ange n'est que un messager, un estafette. Il n'est pas le Fils. Christ est le Fils. Et puis une deuxième chose que nous lisons, c'est dans le verset 6, un ange, en fin de compte, n'est que un adorateur. Un ange, verset 6, regardez verset 6, un ange, lorsqu'il dit que les anges, verset 6, est de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, lorsque il faut garder les pronoms, à qui appartiennent les pronoms, il, le Père, introduit, il, le Fils, ou le premier-né, le Fils, il, le Père, dit que tous les anges de Dieu, Christ, l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Et ça vient de Psaume chapitre 89, verset 28, où j'avais noté dans presque toutes les traductions, c'est les dieux minuscules D avec X, les dieux, ou bien les puissances. Parfois, il est utilisé dans d'autres passages, anges, mais les inférieurs, des esprits inférieurs, que tout ceux l'adorent. Et c'est ça ce que nous avons ici. Et sachez-vous, quand il a introduit le premier-né, certains pensent que ça c'était la naissance de Jésus, d'autres pensent que c'était le deuxième retour de Jésus. Moi, j'ai voté pour le premier. Ça a l'air, ce n'est pas important peut-être, sauf pour le fait que un ange ne fait rien qui n'est pas un acte d'adoration devant le Seigneur. Et soudain, il se joignit l'ange, une multitude de larmes. Et attention, il y avait un seul ange à Noël. At Christmas, there was only one angel at first. Et puis après, une multitude, la seule fois où nous voyons une chorale de une multitude, c'est le mot qui est utilisé pour innombrables, peut-être des milliers, des millions des anges, parce qu'il en existe des millions et des millions et des millions. Ils existent. Et ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient un petit bébé dans une petite étable. Quelle condescendance de la part de Dieu. Et tous ces anges qui descendent pour adorer cet pauvre enfant dans une étable parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour vivre, pour dormir dans un hôtel de 2 étoiles ou une seule étoile. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui avaient vu des anges avant. Et nous avons étudié l'année dernière, n'est-ce pas, fait une étude assez profonde sur les anges. Et Esaïe disait, des séraphins criaient l'un à l'autre. Esaïe a eu une expérience dans une vision où il criait, « Misérable que je sois, ma bouche est souillée » quand il a vu le trois fois saint personnage. et des séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint !» Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Jésus nous dit dans Jean chapitre 12, verset 41, que c'était Ésaïe qui parlait de lui-même. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe, peut-être qu'il ne le savait pas, toutes les implications. Il voyait la personne de Jésus-Christ. Et quand il le voyait, il ne pensait pas pouvoir vivre. Et les anges qui gardaient les ailes sur les yeux pour ne pas voir toute la splendeur de cette personne au-dessus de tous les anges. C'est merveilleux. Et puis, en Apocalypse, chapitre 5, verset 11, certaines personnes ont vu Jésus avant qu'il venait, comme Ésaïe, Daniel aussi, j'aurais pu noter. Et puis les bergers qui tremblaient devant un seul ange, et puis après devant des milliers de, ou millions, je ne sais pas, des anges, qui se sont soumises à ce petit bébé dans une étable, et à la fin du monde, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Ils étaient et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était de myriades, de myriades, de milliers, de milliers. Ça veut dire infini, innumérable. Ils disaient, les anges, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Ça me rappelle de Philippiens 2, n'est-ce pas? Sur la mer, tout ce qui s'y trouve dedans, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Des anges sont absolument magnifiques, mais ils ne sont, en fin de compte, que des messagers. Ils ne sont que des adorateurs. Ils sont créés pour adorer. Créés pour adorer, comme vous. Et comme moi. Et puis, prochain verset, verset 7, nous voyons que des anges ne sont que des créateurs. Créatures. Créatures. Regardez verset. De plus, il dit aux anges, il fait de ces anges. Je m'arrête là juste pour un instant, parce qu'il y a deux choses à noter ici. Comment les anges sont-ils connus au ciel? Ils sont connus comme ceux que Dieu a fait, comme des esprits, comme des serviteurs, comme des vents, est une autre traduction. Il fait comme des vents et comme le ciel. Il dit aux anges, celui qui fait des anges, des vents, et ses serviteurs du feu. Bon, d'abord, dans toute leur splendeur, les anges ne sont que des êtres faits, créés. Des anges ne sont que des êtres créés. Christ, vous le savez, il est le créateur de ces anges. Oh, ça me fait mal quand je pensais au témoin de Jéhovah qui tourne dans le voisinage et qui s'appelle chrétienne. Ils ne sont pas des chrétiennes. Le Dieu des chrétiens est blasphémé par eux. Ils rejettent. Ils disent qu'il est créé, pas qu'il est le créateur. Ils enseignent une doctrine pernicieuse, contre quoi l'apôtre de Hébreux est en train de avertir des personnes que si vous vous éloignez de ceux-ci, vous ne pouvez pas être un chrétien. Un chrétien qui refuse d'adorer Dieu manifesté dans la chair, il est Dieu. La première chose à noter, donc, ils sont créés, ils sont faits, et au ciel, ils sont connus comme ceux qui sont comme le vent, comme ceux qui sont comme le feu. Dieu s'en sert du vent, Dieu s'en sert du feu. Hier, j'étais dans le bois, hier après-midi, j'étais dans le bois de Cestas, ce que je fais souvent les samedis soirs, juste pour être seul et penser, et puis je voyais vers cet immense nuage de fumée à Jean-Diac, et puis Saint-Jean-Diac, et puis je voyais des avions qui passaient au-dessus, qui venaient et qui jetaient de l'eau sur la forêt, puis rentraient, je ne sais pas, à l'Arc d'Auchan ou quelque part, pour descendre, pour remplir le ventre avec de l'eau, pour retourner là. Je les ai vus passer une douzaine de fois pendant que j'étais là, passer, retourner, tellement bas que je notais, écrit dessus, c'était sécurité civile. Problème de vent, la nuit avant, il y avait du vent pendant la nuit. Et pendant toute la journée hier, il y avait du vent aussi, un peu. Et le vent et un incendie ne sont pas des amis. Dieu s'en sert des deux. Et nous sommes très contents quand il arrive un courant d'air. Mais Dieu s'en sert des vents. Le mot vent est le même mot que l'esprit. L'esprit est appelé un vent parce qu'il ne se voit pas. Et donc, Dieu s'en sert des anges qui sont comme ça, mais ils ne sont que des créatures. Ils sont là pour servir. Mais comment Christ est-il connu? Les anges sont connus au ciel. Ah, vous parlez de qui? Je parle de ceux qui sont comme le vent, comme le feu, pour servir, dire, ah oui, vous parlez des anges. Oui, d'accord. Comment est-ce que Dieu est connu? Le prochain verset. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de équité. Ton trône, ô Dieu. Attention. Il dit au Fils. Il, Dieu, Père, dit au Fils, Jésus, ton, Jésus, c'est Dieu qui parle, ton trône, ô Dieu, Dieu, ton trône, ô Dieu, Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de équité. Ah, un règne, un roi, comme ça. Regardez ce passage en entier, parce que c'est un passage assez long, juste survol. Verset 7, celui qui fait des anges, des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, jamais à ces flammes ou ces vents, ces anges, jamais à eux. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu, Jésus, c'est Dieu le Père qui parle, tu as aimé la justice, tu, Jésus, as haï l'iniquité. Un bon roi est toujours un roi qui se concerne avec la justice. Un bon roi déteste l'injustice, ou inéquité, ou iniquité. Tu aimes la justice, tu hais l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, Dieu qui dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, moi, toi, Jésus, roi d'une huile de joie au-dessous de tes égaux. Il est sans doute en train de parler avec tous les autres parce que ça c'est dans les psaumes, ça s'est tiré des psaumes où David est visé, et tout ce qui va sortir de David ont été couronnés, loin, comme le roi suprême. En dessous, bien sûr, Dieu, mais sur la terre, ils étaient couronnés, ils étaient rois. Ils avaient une cérémonie de couronnement. Ton Dieu, tu es roi d'une ville au-dessus des autres princes, au-dessus des autres rois. Tu es le roi des rois, n'est-ce pas? Nous lisons à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Attention, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils. Toi, Dieu, n'oubliez pas, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. J'ai oublié de souligner tes, là. Tes qui? Jésus. Ils périront. Qu'est-ce que va périr? Les ouvrages de ses mains va périr. Mais toi non, tu subsistes. Ils vont vieillir comme un vêtement qui se vieillit. Ma femme qui me dit, Robert, je t'avertis, c'est la dernière fois que tu vas porter cette chemise, c'est fini, c'est trop vieux. C'est pas bon maintenant. D'accord, chérie, j'aime beaucoup cette chemise, mais pour te plaire, je me relâche. C'est vieille. On achète à nouveau. Et puis, c'est comme cela. Tu, verset 12, tu, Jésus, dit le Père, tu vas rouler ces ouvrages quand tu auras fini. Tu vas le rouler comme un manteau qui sera changé. Mais toi, oh, il y a plein de pronoms que j'ai oublié de souligner. Mais toi, Jésus, tu restes le même. Hébreux 13, 8, plus tard, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pendant toute l'éternité. Jésus n'a pas changé du tout. Or, il s'incarne. Le Jésus qui était depuis l'éternité passée est incarné dans un corps à partir de Noël. Tes années, quand même, ne fuiront point. Donc, les anges ne sont que des anges, des messagers. Les anges ne sont que des adorateurs. Les anges ne sont que des créatures. Et puis, des anges, versets 13 et 14, et on a déjà vu, ne sont que des serviteurs. On a lu verset 7, et je le remets juste pour souligner un point. De plus, il dit aux anges, celui qui fait ses anges des vents, et que de ce serviteur une flamme de feu. Et verset 13, les deux derniers versets du chapitre, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Qu'est-ce qui fait Jésus à la droite de Dieu le Père? Nous avons lu, et on n'a pas noté, je compte probablement de prendre Hébreux 1:3 pour préparer pour la Sainte Cène la semaine prochaine. Mais quand Jésus a fini la purification du péché, il s'est assis. Le sacrificateur, le prêtre n'était jamais assis à la maison, oui, dans le temple, jamais. Aucun sacrificateur à travers des siècles ne s'est mis assis. Être assis signifie, ça y est, c'est fini. Leur travail n'a jamais été fini. Leur travail était toujours préparation pour la prochaine. Péniblement. le versement de sang tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jamais fini, jamais fini. Mais quand Jésus a fait la purification du péché, il s'est assis à la droite de la majesté au ciel, attendant que tous ses ennemis soient mis sur ses pieds. Ça vient du livre de Josué. Josué qui a presque toujours gagné ses batailles, symboliser la victoire complète par mettre le pied sur le cou de l'ennemi. Il est entièrement à la disposition du vainqueur. Christ est le vainqueur de tout. Et vous comptez tourner votre dos sur lui. Et puis verset 14. En tant que serviteur, les anges, ils ont un autre travail. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? On pourrait arrêter là. On est d'accord déjà sur ça. Ne sont-ils pas tous des esprits qui sont des serviteurs de Dieu? Imaginez le trône. Aucun ange n'est jamais s'est mis sur le trône. Les trônes ne sont pas pour des messagers. Trône, c'est pour la royauté. Aucun ange n'est pas assis à côté. Les anges existent comme des vents et comme des flammes pour faire exaucer tous les besoins du royauté, du roi. Ils sont des millions qui ne font que regarder qu'est-ce que le roi veut de moi. Les anges font ça. Et qu'est-ce que le roi veut de eux? Il veut les envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter au salut. Le pire de pécheurs, un homme vil, mal, souillé. Pervers. Qui se prosterne devant le trône de grâce. Parce que Jésus, ce personnage, s'est prosterné devant le trône de jugement et accepté le jugement pour tous ceux qui croient. Et donc, cet homme se lève, entre dans un ministère en faveur de lui-même, de la part des anges. Des anges sont partout. La Bible enseigne cela. Invisible, je suppose que si un ange apparaissait à côté de moi ce matin, et vous le voyez, il y aura une différente manière de nous présenter. Enfin, ils sont là, chers amis. Vous ne savez pas combien de fois par semaine vous êtes protégé par un ange. Satan et ses anges sont là pour trouver un point de faiblesse dans votre caractère, dans votre vie. Mais il y a d'autres anges qui restreint. Il y a des anges qui restreint maintenant. Les puissances de ténèbres pour faire ce qu'ils voudraient faire dans notre assemblée s'ils pourraient. Et des gens qui s'en occupent de nous. J'ai pensé juste à plusieurs versets pour terminer. L'ange de l'Éternel campe pour tout de ceux qui le craignent, dit le psalmiste, et il les arrache du danger. Satan osait dire à Jésus, ça, il osait citer ce verset à Jésus pour dire « saute !» Parce que les anges, ils vont vous protéger. Oh, Jésus avait contrôle de tous les anges. Je me rappelle, et vous aussi, dans le jardin de Gethsemane, un ange est venu pour servir Jésus, mais quand Jésus disait « Pierre, mets-toi ton épée !» Ne sais-tu pas que je peux rappeler une légion d'anges, des millions qui viennent de partout, instantanément comme ça. Il le ferait si jamais je l'appelle. Mais je ne vais pas les appeler. Je crois que les anges n'ont jamais passé plus de frustration que de voir Jésus. Ils ne comprenaient pas pourquoi il allait mourir sur la croix. Les anges ne saisissaient pas ça. Ils ne comprennent pas la grâce. Ils sont émerveillés par la grâce jour après jour après jour. L'Église, Éphésiens 3:10, est en train d'informer, éduquer les anges. Et regarde, c'est pas vrai. Dieu, tu peux encore permettre Robert de prêcher encore un autre sermon après ce que tu sais de lui? C'est pas possible. Dieu, il est à moi. Il est à moi. Je le protège. Si c'était pas pour les anges, oui, vous êtes sauvés par la grâce, mais attention, les anges jouent un rôle très important. Que si jamais leur travail ne marchait pas, il n'y aura pas de salut pour vous. Bon, ça va marcher. C'est sûr. Pour ceux qui sont à lui. Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées. Qui? Toutes ses armées, virgule, qui êtes ses serviteurs? Et qui faites sa volonté? Ça parle des armées célestes, des anges. Daniel disait à Darius, « Daniel, est-ce que ton Dieu était puissant suffisamment pour que tu ne sois pas mangé par des lions ?»« Oh, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Il me protège. Dernier verset à Matthieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Ce n'est pas un verset qui enseigne les anges pour les enfants, des bébés. Ce n'est pas les anges pour la garderie. Les petits sont ceux qui sont fragiles dans leur foi, sont ceux qui peuvent très facilement être offensés, être menés vers le mal à cause d'une activité d'un chrétien qui devrait mieux savoir. Si ce n'était pas pour les anges, vous serez probablement un mauvais témoignage, moi aussi, envers quelqu'un d'autre où sa foi est tellement fragile. Il est un petit enfant, mais son ange le garde. Un ange qui porte son nom, je ne sais pas. Je doute. Mais peut-être. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est merveilleux. Notez quelque chose de très intéressant, que les sept passages de l'Ancien Testament font une certaine progression. La relation éternelle, verset 5, entre le Père et le Fils, deux mots qui sont tellement mondains qu'on emploie les mots tous les jours dans le foyer. On parle de Père, on parle de Fils. Et verset 6, l'entrée du Fils dans le monde à Noël. Et verset 3, Dieu qui est oint par Dieu. Christ, oint par le Père. Et verset 10, il est au pouvoir alors. Christ, ayant fondé, créé le monde, il est maintenant celui qui va finir aussi le monde, verset 12 et 11. Où est Jésus-Christ maintenant, verset 13, assise à la droite de Dieu, envoyant ses anges à Pessac-Compostelle? Nous assurer de notre protection et de notre salut. Ils sont donc, et les anges ne sont que des anges. Christ est le Fils de Dieu. Les anges ne sont que des adorateurs. Christ est l'adorer. Les anges ne sont que des créatures. Christ est le Créateur. Les anges ne sont que des serviteurs. Christ est le Roi des rois.